frères et sœurs, nous vous proposons l'émission « Racontez-moi Dieu dans votre vie » avec notre sœur Reichaz. Elle reçoit aujourd'hui le frère Gilles Le Goff. Bonne écoute à tous.
Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, nous recevons frère Gilles et je suis vraiment heureuse de pouvoir enfin interviewer frère Gilles, l'auteur de cette merveilleuse émission Fontaine. Mais je vais laisser frère Gilles se présenter pour nous.
Bonjour, merci de m'accueillir. Et donc, la première question, qui êtes-vous? J'aurais beaucoup de choses à dire, hein, mais oui. C'est sûr que...
Présentez-vous déjà.
Voilà, oui. Donc je suis un frère, on m'appelle frère Gilles, et je m'appelle frère Gilles Le Goff. Le Goff, en breton, ça veut dire le forgeron.
Ah.
Oui, et un peu comme en Angleterre, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Smith, et ça veut dire le forgerion. Voilà, et donc je suis devenu de la Bretagne, et... Je suis donc frère de la congrégation des frères de Pleuermel, où on appelle ici les frères de Lamennais. Je suis arrivé la première fois ici en 1975, c'est ça, j'ai fait un premier séjour. Et puis je suis revenu donc depuis maintenant une quinzaine d'années ici. Et donc ma famille habitait en Bretagne, d'un côté de Brest. Et donc, j'ai vécu dans une ambiance de famille chrétienne, même si c'était les années 60, qui ont évolué peu à peu, avec les années 68.
Qui a amené beaucoup de changements, oui.
Sûrement, oui. Et donc, à un moment donné, il y a eu des pas que le Seigneur m'a invité à faire par des rencontres, en particulier des frères, qui, à un moment donné, donc, m'ont donné envie, quand j'avais 10, 12 ans, d'orienter ma vie pour être frère. Voilà.
Comment ça s'est passé
Donc, j'étais dans une chorale, donc dans ce grand collège qui s'appelait Saint-Joseph et qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, donc dans cette ville qui s'appelle Landerneau, côté de Brest en Bretagne. Et donc, j'étais à l'école, le collège, en 6e, 5e, j'avais fait depuis la 11e, comme on les appelait, le CP. Et donc là, à partir d'un moment donné, dans cette chorale, le frère Bernard, il y avait des frères, il y avait une communauté de frères, et il m'a dit, dans un premier temps, donc il m'a dit, tu veux pas venir à la chorale? J'ai dit, oui, j'aime bien chanter, mais sans plus. Si, j'avais fait du piano, donc depuis l'âge de 8 ans. Et donc, j'aimais bien chanter. Et il m'a demandé, à un moment donné, plus tard, après, dis donc, tu veux pas devenir frère comme ton grand-oncle? J'avais un grand-oncle frère. Et puis j'avais aussi des oncles prêtres, donc il y avait le choix aussi. Oui. Et donc cette idée m'est venue dans le cœur et donc à partir de la cinquième, de la quatrième, de la classe de quatrième, eh bien j'ai commencé le chemin en allant dans un, non pas un petit séminaire, mais ce qu'on appelait un juvénat pour les jeunes qui veulent... qui pense à devenir frère, à partir de... Et ça s'appelait le juvénat. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont automatiquement frères. Donc, pour continuer ma scolarité, mais dans une école spéciale, un peu comme les petits séminaires, quand ils existaient ici, je pense aussi, à Mitirapa, là, autrefois. Donc, voilà comment j'ai commencé ce chemin-là, dans une famille que j'aimais beaucoup. Mon papa, ma maman sont décédés, mais j'ai des frères et sœurs que je vais rencontrer bientôt, là, quand j'irai en vacances, qui habitent en Bretagne. Patrick, mon frère, mon petit frère, et ma grande sœur, Elisabeth, et notre sœur, qui s'appelle Marie-Dominique.
Mais vous êtes le seul religieux de votre fratrie.
Oui, en effet. Donc, mes frères et sœurs n'ont pas... ne sont pas marqués par la religion, la prière et tout ça. Non, ils ont reçu la même chose que moi. Puis moi, j'ai fait un autre chemin. Le Seigneur a voulu que je la fasse et j'avoue que j'ai accepté donc de faire tout un chemin vers ça.
Et une question aussi qui me passe par la tête, c'est comment vous avez discerné que c'était frère plutôt que prêtre? Parce que vous aviez aussi un goût pour l'enseignement ou...
Oui, c'est mystérieux, c'est mystérieux, et c'est sûr qu'à un moment donné, je raisonnais en me disant, non, c'est là que je dois aller. Hein. Et à un moment donné, même, je crois que je serais heureux comme ça. Oui, il y a quelque chose, quoi. Oui. J'avais peut-être que 13, 14 ans. Hein. Et oui, c'est pas entièrement calculé, je dirais. Hein. Et puis, donc, le témoignage des frères, surtout ce frère Bernard, même s'il était un peu dur, il donnait des baffes quand on chantait mal. Mais ça marque et puis ça reste. Et le Seigneur nous aide à cheminer comme cela. Et donc, c'est à partir de ça. Hein. Il y a la famille. Hein, la famille qui m'a aidé, mais c'est vrai que, je dirais, comme à l'époque de vie chrétienne, on allait à la messe et tout cela, on priait un petit peu, surtout au repas, mais pas tellement ensemble, hein, comme on pouvait le faire et comme on peut le faire encore aujourd'hui.
Une famille pratiquante.
Une pratiquante, oui. Oui, c'est ça. Hein, et bon, après, il y a un chemin qui peut se faire. Je vois ma maman, elle a fait vraiment plus tard, quand je grandis aussi, que je suis devenu frère, un chemin pour de découverte des Saint François d'Assise et du mouvement franciscain. Donc, elle s'est engagée dans un groupe. Et donc, quand elle est un peu plus âgée, elle a beaucoup progressé dans cette foi qui n'était plus que uniquement une foi de pratique, hein, une foi aussi de réflexion dans un groupe franciscain. Et donc, c'est comme quoi on chemine. Hein, et moi, j'ai eu la chance, j'ai senti que c'était... Ce chemin vers la vie de frère, c'était pour moi. Voilà.
Oui, c'est quand même étonnant qu'en tant qu'enfant et ado, vous êtes sûr d'être heureux dans cette voie.
Je ne sais pas si on peut dire que j'étais sûr, mais je sentais que c'était vers là et que ce n'était pas pour être prêtre. C'est curieux, parce que j'avais un prêtre, tonton Raymond, qui était au Brésil, qui est enterré là-bas d'ailleurs, hein, prêtre de Saint-Jacques. J'avais aussi un autre prêtre du côté, lui, de ma maman, hein, donc Manu, qu'on l'appelait, il s'appelait Manuel, qui était recteur, on appelle les recteurs les prêtres en ce temps-là. Et on allait, quand j'étais petit, tous les dimanches, on allait à la messe dans sa paroisse et on mangeait. Et puis, donc j'étais très proche des prêtres. Mais c'est vrai que ça ne s'est jamais imposé. Et je dirais même posé tout simplement. Est-ce que tu veux être prêtre? Je n'ai jamais eu la question posée par quelqu'un. Et donc, c'est un peu simple comme ça. Et j'ai continué le chemin comme cela.
Et vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient professionnellement?
Alors oui, ma maman était mère au foyer, hein, comme encore dans les années 50. Hein, et ils se sont mariés en 1947. Et mon père était, il avait un rôle de cadre dans la ville où on habitait, là, dans une grande, on appelait ça un truc agricole, là, qui rassemblait une grande coopérative, voilà. Hein, et donc, il était cadre dans cette... Donc, il a travaillé jusqu'à sa retraite. on habitait cette ville-là, cette belle ville qui existe toujours, que j'aime bien aller retrouver. Elle s'appelle Landerneau. Voilà.
Landerneau.
Donc, si vous voyez où est Brest, au bout de la Bretagne, là, du Finistère, eh bien, vous allez un petit peu faites 20 kilomètres vers l'est. Donc, vous trouvez Landerneau. C'est une rivière qui arrive à Brest, hein, ce qu'on appelle la Bère. Et donc, c'est tout proche, quoi. Donc, c'est là que... dans cette belle ville, hein, qui a une particularité. Elle a un pont sur cette fameuse rivière, les Lornes, et sur lesquels, depuis toujours, depuis des siècles, on avait bâti des maisons au-dessus de la rivière.
Ah,
et c'est toujours le cas. Oui, c'est l'une des rares...
Donc c'est un passage quand même.
C'est ça, c'était une rue avec des maisons. Donc, et quand j'étais petit pour aller à l'école, je traversais cette rue qui passe... Avec les maisons, il y a des magasins qui passent au-dessus de la rivière.
Oui.
Hein, et donc, c'est l'une des rares... Mais il n'y a plus beaucoup en France, hein, de ponts habités.
Oui,
voilà, c'est ça. Hein. Et donc, je traversais, je faisais ça. Là, on allait à l'école à pied, même s'il fallait faire... J'avais une demi-heure de marche, et tout petit, à partir du CP, de la 11e, comme on disait. Et j'allais à l'école des frères, à partir de là.
C'était des frères de Plohermel aussi.
Quand j'étais en maternelle, c'était les sœurs quand même. Il y avait sœur Bernadette qui me donnait de temps en temps des petites fessées. Hein? Et donc, parce que l'école était tout près. Hein? Donc, l'école des sœurs. Et donc après, à partir de la 6e, c'est ça, je suis allé à l'école des frères. Et j'allais tous les jours donc traverser la ville. En ce temps-là, on n'avait pas idée de conduire les enfants en voiture. Hein. Mes parents n'avaient pas de voiture quand j'étais plus petit. Oui. On en a eu une à partir des années 60 quand même. Mais on marchait en ce temps-là.
Oui, oui. Oui. Et donc c'est à cette époque que votre amour, votre passion de la musique est née.
Ah oui, aussi, beaucoup, oui. À partir du piano, à partir du chant. Et donc j'ai commencé à écouter, dans les années 60, il y avait beaucoup les radios, on écoutait les chansons avec les grands chanteurs. Là. Mm-hmm. C'est vrai que ça m'a marqué depuis toujours. Hein. Donc les chansons, mon idole par exemple, c'était Hugo Frey. Dans les années 60. Et il est toujours vivant, hein, il a 90 et quelques. Il chantait Santiano, je peux vous chanter des dizaines de chansons.
C'est une très belle musique.
Oui, bien sûr. Et un jour, on m'a offert une guitare, en tout cas, on m'a fait venir une guitare d'Espagne par ma tante religieuse qui accompagnait des jeunes donc en Espagne. Et puis, donc, j'ai commencé à jouer la guitare après le piano. Et donc, j'ai commencé à apprendre comment faire les accords de guitare avec les chants pour chanter. Et donc, c'est là que ça, c'est un aspect de ma vie qui m'a marqué toujours. J'ai toujours ma guitare. Et puis, avec les enfants dans les écoles, surtout avec la maternelle, d'ailleurs, j'aime bien. Avec des petites chansons, là. Et donc, ça, c'est un aspect de ce que j'ai pu vivre depuis toujours, hein, la musique, le chant.
Et lors de votre émission enfantine, vous amenez parfois votre guitare et chanter,
non ? Je n'ai pas pensé faire ça quelquefois. Il faudrait que j'y pense, oui.
C'est bien avec les enfants.
Oui, c'est vrai. On chante quelquefois, mais pas... Oui, peut-être c'est une idée à retenir, ça. Bon, ça poserait juste une question technique hein, pour la guitare, brancher la guitare. Mais ce n'est pas impossible, en effet. Hein. Voilà, non, elle est là.
Alors, avant qu'on prenne une pause, votre passion pour la parole. Vous aimez la parole. Donc, est-ce que c'est né aussi à cette époque-là ou plus tard ?
Je ne peux pas dire, là. Là, je ne peux pas dire. Franchement, c'est peu à peu. J'ai l'impression que c'est plus récent d'aimer, donc d'être content tous les matins ou la veille au soir, de lire les textes que l'Église propose. Hein. Pour moi, c'est une nourriture, vraiment. Hein. C'est pour moi la parole de Dieu. Donc, je ne saurais pas dire depuis combien de temps. Je pense que c'est assez longtemps. Hein. Mm-hmm. Surtout que les frères, nous, c'est évident. On a chaque matin... un temps qu'on appelle un temps d'oraison.
Oui.
Et donc, le matin, d'abord, on prie la prière du temps présent, hein, la prière universelle de tous les religieux, religieuses et les laïcs qui veulent bien. On appelle ça prière du temps présent. On appelait ça le bréviaire autrefois. Hein, mm-hmm. Prière du temps présent. Et après, on a une demi-heure ou 20 minutes, suivant d'oraison, de prière personnelle, à partir de la parole de Dieu. On peut appeler ça aussi un temps de méditation, pour laisser la parole de Dieu faire son chemin dans notre cœur. Hein. C'est ça. Et tout le monde devrait faire ça. Tout le monde, ceux qui veulent, ceux qui sont chrétiens, et je pense qu'il y en a qui font, hein, qui prennent la parole de Dieu. Mais ça suppose un contexte. Nous, on fait ça dans la chapelle, hein, où c'est le silence, le calme. Hein. On est quatre frères, et on a ce temps-là. Et donc, ça suppose de pouvoir être calme, hein, au calme, pour lire tranquillement la parole et prier à partir de ça. Mmh. Il y a la parole qu'on écoute, on laisse le Seigneur faire son travail dans notre cœur. Ensuite, on médite cela. Et ensuite, cette parole, eh bien, on essaye de voir peut-être comment vivre cette parole, comment cette parole peut nous interpeller. Hein. Mmh. Voilà, donc c'est ça. Je pense que c'est pas extraordinaire hein, de faire ça. C'est tous les chrétiens, je pense, qui le font.
Oui.
Hein, pour prendre un exemple, la parole du dimanche, je vais sur YouTube écouter les commentaires d'une certaine Marie-Noël Tabu. Je ne sais pas si vous êtes allé. Autrefois, il y avait simplement sur Internet dans les textes de commentaires des textes du dimanche, mais actuellement, elle les a enregistrés. Hein, et donc, tous les dimanches, même en revenant de la messe, surtout en revenant de la messe, j'écoute ses commentaires. Hein, il suffit d'aller sur YouTube, Marie-Noël Tabu, commentaire des lectures du dimanche. Et moi, je trouve que j'apprends beaucoup, d'abord pour comprendre hein, la lecture, comprendre le contexte, comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur de ces textes, et aussi comment ça nous aide à appliquer cela. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est un exemple que j'ai découvert pas très longtemps, d'ailleurs, hein, que sur YouTube, on pouvait avoir beaucoup de nourriture hein, pour que soit la parole de Dieu et puis beaucoup de chants aussi, hein, de chants.
Ah, oui. On va faire une petite pause musicale. On va continuer notre interview à partir de l'âge de 18 ans.
Oui.
La 18 ans, vous êtes où? Vous êtes toujours en Bretagne?
Voilà, à 18 ans, j'ai eu mon bac à Ploërmel. Donc, j'ai fait le parcours seconde, première, terminale. Et à partir de là, on nous proposait de rentrer au noviciat. Pour devenir frère. Donc j'avais fait tout ce chemin quand même dans ce cadre de Ploërmel, tout en faisant mes études. Et donc j'ai passé mon bac, c'était en 1970. Et en 70, je suis parti à Jersey pour faire le noviciat. Les frères avaient une maison, leur maison principale. C'est des raisons historiques, hein, c'est pas la peine de tout expliquer. Et donc j'ai passé un an le noviciat. Donc c'était vraiment l'apprentissage pour devenir frère. Hein, dans toutes les congrégations, il y a une année officielle, qu'on appelle l'année canonique, du noviciat, à la fin duquel on considère que l'on a fait une première étape importante. On peut s'arrêter, hein, mais on peut continuer. Et donc, à partir de ça, je suis retourné à Ploërmel, non pas pour des études universitaires, mais plutôt un peu comme un grand séminaire, hein, pour continuer à approfondir même la théologie, l'écriture, la parole de Dieu, et donc continuer une formation sur le plan religieux, mais aussi éducatif et sur le plan pédagogique. Donc on se prépare à devenir des frères qui font la classe, qui font la catéchèse. Et donc là, c'était pendant 2 ans. Voilà, et jusqu'en 1973, voilà.
Donc vous prépariez uniquement ça, pas c'est des ça. Ah, études oui, oui. Classiques.
Non, du tout. Pendant 3 ans, donc de 60 jusqu'en 75, non, 73, hein, donc les années précédentes, j'étais ce qu'on appelait le scolastica. Hein, c'est un terme un peu comme le grand séminaire, vous voulez. Et donc la théologie, on a vraiment. Et moi, j'ai toujours apprécié d'apprendre et d'approfondir ma foi comme cela. Puis la prière, bien sûr, aussi. Hein.
Et pendant ces temps, vous avez rencontré, y a-t-il eu des personnes qui vous ont marqué, influencé?
Donc, quand j'étais plus petit, il y avait déjà eu le frère Bernard, hein, oui, qui a un peu donné le déclic. Hein. Oui. Et puis, il y a eu des frères, je vois, à Pleurmel, donc en seconde, première, terminale, qui étaient importants pour moi et qui m'aidaient. Hein, je vois le frère Pierre Chatal, qui était prof de maths, etc. Bon, et d'autres comme ça. Et puis, donc, au noviciat, on avait un maître des novices qui s'appelait le frère Jean. Jean Kermarek, c'est un nom bien breton. Et donc, ça a été pour moi très important aussi. Hein, c'était vraiment celui qui m'accompagnait, qui confirmait ou qui m'interpellait hein, pendant cette année de... Et puis ensuite, au Scholastica, bon, j'ai rencontré des frères aussi, des théologiens, des frères pour étudier la vie religieuse aussi. Qu'est-ce que c'est ? Par exemple, qu'est-ce que c'est que les trois vœux que l'on prononce hein, qu'est-ce que ça, quel sens ça a ? Hein, par rapport à une vie de baptisé qui fait un choix, hein, qui dit ben non, je ne vais pas me marier, mais je vais faire ce vœu de chasteté qui veut dire avant tout que donner ma vie en restant célibataire, comme le font les religieux et les religieuses depuis des siècles et des siècles. Hein, voilà.
C'était quoi les trois vœux ? Chasteté ?
Alors voilà, c'est le vœu de chasteté, c'est le vœu d'obéissance. Hein, au sens qu'on obéit, au sens non pas infantile, mais qu'on tient compte quand même de ce que l'on nous demande, quand on nous demande de changer de lieu, tout ça. Et le vœu d'obéissance. Et le vœu de pauvreté, qui n'est pas facile à comprendre non plus, qui veut dire avant tout qu'on ne possède rien, qu'on ne s'attache pas, on ne cherche pas à gagner de l'argent pour nous, ou si on gagne de l'argent, moi je reçois une retraite actuellement, on le met en commun dans les communautés. Mm-hmm. Voilà comment fonctionne toute communauté religieuse.
C'est ça, hein. Oui.
Voilà, ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est, à un moment donné, c'est un choix que l'on fait de vivre de cette façon-là.
Oui.
Hein. Et notre famille concrète, c'est la communauté, hein, oui, où on partage, où on prie ensemble, mais on partage aussi les biens, hein, l'argent que l'on peut gagner quand on est... Parce qu'on gagne de... Quand on est enseignant, hein, moi, j'ai passé pas mal de temps en tant qu'enseignant ou en tant que formateur, tout ça, donc ça m'a permis de gagner notre vie. Mm-hmm. Hein, c'est quelque part, il faut être réaliste mm-hmm. aussi. Hein. Mm-hmm. Voilà.
Et avez-vous... eu des livres qui vous ont influencé, approfondi ce que vous vouliez ou qui vous ont interpellé?
Oui, alors, il y a un petit exemple que j'aime bien me rappeler, c'est quand je suis arrivé en classe de quatrième, donc au Juvéna, hein, après avoir été, pour commencer un petit peu ce parcours-là. Et puis, on donnait à tous ceux qui arrivaient un livre de prière qui s'appelait « Rabouni ». Et c'est vrai que c'était important, un beau livre, c'était un joli petit livre qui existe peut-être toujours, je ne sais pas. Et Rabouni, ça veut dire maître. C'est le terme qui veut dire maître et c'est le mot que Marie-Madeleine, quand elle a vu, quand Jésus ressuscité est venu l'appeler Marie, hein, dans l'évangile de Jean, je crois, là. Et elle a tourné sa tête devant et puis dit « Rabouni, c'est toi Jésus ». Rabouni. Et Rabouni, ça veut dire maître dans la langue. Quoi. Mm-hmm. Et donc, ce livre m'a beaucoup marqué.
Oui.
Voilà. Alors après, il y a eu d'autres livres aussi. Je pense à un livre qui existe toujours. C'était un peu plus âgé. Par exemple, Puissance de la louange. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Si.
C'est un livre qu'il faut lire avec discernement. Parce que ça peut paraître...
David Wilkerson.
Oui, c'est ça. C'est un pasteur. Hein. Bon, c'est un livre qui me vient à l'esprit et qui m'a vraiment aidé à vivre le concret de la foi dans l'aspect de confiance en Dieu. Mmh. Dieu nous conduit, hein, et même si ce n'est pas évident toujours, on lui fait confiance. Il y a beaucoup d'exemples de gens qui étaient dans la désespoir. Ils racontent beaucoup d'histoires vraies, hein, et de gens qui se sont dit, Seigneur, je te fais confiance. Hein, mon mari est parti, ou des choses comme ça, ou on a une catastrophe financière. Ben, Seigneur, je te confie ça, et je te fais confiance. À la limite, et le livre, là, peut-être, est un peu controversé. Merci, Seigneur, pour les problèmes que j'ai, de dire merci comme ça. Hein, ce livre-là a plein d'histoires qui racontent comment les gens, à force de dire merci, malgré tout, eh bien, ça s'est arrangé.
Oui.
Bon, c'est pas non miraculeux, il faut pas rêver non plus. Mais voilà un livre qui, à mon avis, qui aide beaucoup de gens encore toujours aujourd'hui.
Toujours,
hein, ça fait longtemps.
C'est
hein.
un livre qui a beaucoup aidé beaucoup de personnes.
Bien sûr. Hein. Alors, il y a d'autres livres, j'avoue que je ne sais plus. Bon, le livre principal, c'est la Bible. Et puis, le livre qui est important pour nous, les frères, comme tout religieux, c'est notre règle de vie. Hein, on a un livre de base qui donne un petit peu tout ce que nous vivons quand on est religieux, religieuse, hein, qui d'abord nous rappelle quelle est notre mission, quel est notre style de vie, la vie. Et donc, il y a un chapitre pour chacun des vœux, la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, et qui nous explique aussi. C'est un livre qui est remis à jour tous les 12 ans à peu près, hein, qui s'adapte un petit peu à ce qui se passe, surtout au plan de la mission.
Oui.
Hein, et donc, c'est la règle de vie des frères, hein, que toutes les congrégations ont leur règle de vie comme cela. Qu'il faut que nous relisons régulièrement. Mmh. Tous les matins, nous avons un extrait de cette règle de vie.
Ah, oui.
Quand on prie ensemble encore ce matin, là, c'était mon tour de lire. On lit sur un calendrier spécial que l'on a pour les frères. Il y a deux citations, une citation biblique, hein, et puis une citation de la règle de vie. Et puis aussi des citations de notre fondateur Jean-Marie de Lamennais. Je n'ai peut-être pas tellement parlé. Oui, c'est ça, on a deux citations. Jean-Marie de Lamennais, il a écrit beaucoup et donc on a recueilli tout ça. Et c'est vrai que de lire les livres de Jean-Marie de Lamennais, pour nous, c'est aussi très très fort. Hein.
Oui.
Et puis une citation donc de la parole de Dieu du jour. Enfin, je ne sais plus laquelle hein, maintenant là. Mais donc ça, ce sont des livres qui sont importants pour nous.
Pour revenir au livre Rabouni, qu'est-ce qui vous a plu plus?
Ah ben, il était beau d'abord.
Il était
un joli livre, hein, à couleur et tout là. Bon, et puis ça donne envie. Ça, je sais pas, je peux pas vous dire maintenant qu'est-ce que j'ai retenu à ce moment-là. Ça fait tellement longtemps.
Les prières étaient.
Voilà, les prières, ah, oui. Hein, les textes, les illustrations.
Hein, ah oui, tout était beau. Quoi.
Tout était beau et tout donnait envie de le lire, de le prier.
Oui. Hein,
et puis c'était aussi le fait d'avoir un livre déjà.
Oui.
Ce n'était pas la règle de vie encore.
Oui.
Hein, c'était pas des livres spirituels parce que j'étais en cinquième. Bon, mais c'est vrai que on nous avait donné ce livre-là. Et voilà, ça. Et alors je n'ai plus ce livre. Ou alors il est peut-être encore dans mes affaires qui sont en Bretagne, j'ai un stock de choses.
J'espère pour vous.
Et peut-être que je vais le retrouver, parce que pour moi, c'est un souvenir.
Ah,
mais
oui.
Bon, voilà.
Sinon, j'ai une autre question, là. Des personnes de votre église, bon, on a vu plutôt les enseignants. Est-ce que vous avez quelqu'un de votre église qui vous a aussi impacté
De notre église ou de notre congrégation?
L'un ou l'autre.
Donc des personnes qui m'ont marqué, oui, j'en ai rencontré parfois. Parfois, c'était des prêtres dans les paroisses avec qui je travaillais. Hein, la ville où se trouvait le Juvénat, quand j'ai eu, donc en quatrième, troisième, eh bien, il y avait un curé avec qui me demandait d'animer les messes, hein, et puis de préparer tout ça. Donc, il y a eu des gens comme ça qui m'ont marqué. Et puis, je n'ai peut-être pas dit beaucoup. J'ai beaucoup... fait du mège, on appelle ça faire du mège.
Oui.
Ça, c'était important.
Oui.
Je l'ai surtout fait à partir de la seconde, donc à Pleurmel en seconde, première terminale, et ensuite comme dans ma formation, et j'ai continué après en tant que jeune frère à faire le mège, à faire des camps, tout ça. Et quand je suis venu en 1975 pour faire mon service national, hein, donc pendant 2 ans, donc mais en fait, c'était en tant qu'enseignant. Eh bien, j'étais même responsable du neige de Tahiti. Hein. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait des camps. J'ai fait ma formation de directeur aussi, de directeur de camp, de centre de vacances. Et donc, tout ça s'est suivi, hein, en quelque sorte. Hein. Donc, voilà.
OK, on va prendre une pause musicale.
Voilà.
Le temps passe vite. Hein.
Oui.
te donner.
J'aimerais revenir à la parole de Dieu. Comment est née votre passion et par quelle parole, quelle est la parole que Dieu vous a donnée qui vous a touché?
Oui, et donc il y en a eu beaucoup, bien sûr, mais il y a une parole, moi, que je retiens toujours, que j'ai reprise quand j'ai fêté mes 50 ans hein, de frère lors de la messe. Que l'on a eu l'année en 2019. Et tout jeune, donc quand je réfléchissais, quand j'étais au Juvénat, il y a une parole de Dieu, un texte d'évangile qui m'a beaucoup marqué, c'est l'histoire du jeune homme riche, dans Saint Marc au chapitre 10. C'est Jésus qui interpelle un homme qui vient lui dire que faut-il faire pour être un bon... Là, pour eux, c'était un bon juif, un bon, oui. Pour être un... vraiment fidèle au royaume de Dieu dont tu parles là. Et Jésus lui répond une chose qui l'a beaucoup surprise, « Va, vends tout ce que tu as et viens, suis-moi. » Cette parole était gravée dans et toujours gravée. Là. Je crois que ça a été déterminant, c'est cette parole que j'ai retenue et qui m'a donné sens quoi, au fait que j'étais en chemin vers une vocation et ça collait parfaitement. De vendre tout ce que l'on a et puis de donner et donc de vivre la vie de religieux, c'est ça. Hein, tout chrétien est appelé à le faire d'une certaine façon, hein, mais nous, c'est plus organisé, quoi, c'est simplement. Et donc voilà, cette parole-là, par exemple, elle est toujours dans ma tête et surtout dans mon cœur. Hein, donc je pense que de temps en temps, en cherchant, je retrouverai d'autres comme ça qui sont importantes, hein, comme les paroles sur le thème de la confiance, sur le thème... aussi tout ce qui est le thème de la charité, hein, donc du don de soi. Voilà.
Quel est le thème qui a été le plus difficile pour vous?
Alors, je ne sais pas comment répondre à ça.
La confiance en Dieu ou
ah oui, mais non, c'est au contraire, oui. Ce qui m'a beaucoup marqué, un peu comme dans la puissance de la louange, c'est la confiance en Dieu. C'est de dire, Seigneur, Là, je suis peut-être pas, ça ne va pas très bien, mais je te fais confiance. Et aujourd'hui, tous les jours aussi, j'ai envie de dire, comme aujourd'hui, on m'interview, je dis, Seigneur, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais tu m'inspireras, tu es là. Oui. Quelque part, c'est aussi l'idée que le Seigneur, Jésus nous dit, ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Et quand on se laisse faire, quand on le laisse, les circonstances font que, on essaye de répondre à ce que Dieu veut. Hein, le but de tout chrétien, religieux ou pas, c'est d'accueillir la parole et éventuellement des inspirations que nous recevons. C'est parfois à partir des personnes qui nous interpellent et qui fait que donc j'ai envie de dire, on est heureux quand on essaye d'être fidèle. On essaye, ça ne veut pas dire que c'est facile toujours, mais c'est comme ça que j'ai avancé depuis toujours.
Oui, la fidélité, on n'en parle pas beaucoup, mais elle est importante dans notre relation avec le Seigneur.
C'est ça, oui, je pense qu'elle est importante pour tout chrétien d'être fidèle à nos convictions, parce que ça donne sens à notre vie. Et ces convictions viennent pour nous chrétiens, de la parole de Dieu, de ce que nous dit l'Église aussi. Je pense que nous faisons partie d'une Église qui nous parle dans beaucoup de sujets, y compris notre pape. Moi, j'aime beaucoup aussi lire ce que nous dit le pape. Parfois, les textes sont un peu longs, mais le pape a des inspirations extraordinaires qui aident, je crois, la chrétienté. Je pense Laudato si, par exemple. Eh bien, c'est un texte qui est extraordinaire parce qu'il n'est pas qu'un texte religieux fermé sur qui vraiment nous invite à respecter la création qui vient de Dieu et donc respecter l'homme, les êtres humains, en ne laissant pas la terre, notre globe, donc se détruire, un manque de réserve par rapport à tout ce que l'on consomme, par rapport à tout ce que l'on fabrique, par rapport donc au respect donc de la nature, tout simplement. Voilà un des textes de ce que nous dit l'Église qui nous inspire, qui nous aide à avancer, même sur le plan des plans assez pratiques comme cela.
Donc le Seigneur vous a appelé et un appel, c'est surtout aussi pour toucher les âmes. Comment vous a-t-il guidé à toucher les âmes? Dans quel domaine?
C'est sûr que c'est pas simple de dire comment on touche les âmes, parce qu'heureusement qu'on ne se rend pas compte, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que je fais toujours de mon mieux à travers tout ce que j'ai pu faire. Et à travers, par exemple, la catéchèse, quand je suis avec des enfants, récemment, c'était sur le thème de Pâques, c'était le thème de Carême. Et donc, j'essaye de bien préparer d'abord, j'essaye de faire en sorte que les enfants... et c'est pour ça que j'aime bien avoir des choses qui les attirent, c'est les diapositives. Quand je parle de l'Évangile, j'essaye de trouver des images qui racontent tel texte d'Évangile. Et par exemple, cette année, pour le Carême, c'était sur le thème de Zachée. Voilà. Et je trouve que c'est ce petit bonhomme que Jésus interpelle. Je veux venir dans ta maison. C'est très fort. Et donc les enfants comprennent. Ah oui, ce Zachée qui était un grand voleur, un méchant, Jésus l'a aidé à changer son cœur, non pas en le grondant. Je demande aux enfants. Alors, est-ce que Jésus l'a grondé? Ben non, il lui a dit juste, je veux aller dans ta maison. Ce qui pour un publicain était impensable, quoi. Donc voilà, j'essaye de rendre les choses compréhensibles et puis que ça les intéresse, quoi. Donc de garder l'idée, tiens, Jésus, voilà comment est Jésus, comment il réagit. Alors ça suppose d'organiser, de faire des diapos. Je fais ça et je les diffuse. Récemment, c'est par exemple pour le mois de Marie qui vient, j'ai envoyé au moins à une école un petit montage diapo où il raconte la vie de Marie, voilà, dans l'Évangile, quoi. Oui. Voilà un peu mon travail. Depuis quelques années.
L'émission enfantine que vous avez créée?
Non, je ne l'ai pas créée.
D'accord.
Mais l'an 2013, il y avait Madame Sandrine Penny, que beaucoup connaissent, à Mahina, et qui faisait l'émission enfantine avec des enfants. Et aussi Irène, Il y avait aussi Irène qui est décédée. Hein, et qui est... Et donc, à un moment donné, je ne sais plus dans quelles circonstances, ils m'ont demandé, tu ne veux pas nous aider à faire l'émission enfantine? Je n'aurais pas dû dire oui. Et donc, depuis 13 ans, je m'occupe de cette émission-là. Et j'ai vu successivement des enfants qui ont grandi depuis. Hein, ça fait pas mal d'années. Et donc, ça, pour moi, c'est sûrement ça, tout à fait logique avec notre mission de frère, qui est d'essayer d'aider la parole de Dieu, de faire la catéchèse d'une autre façon, hein, à travers ces émissions qui parlent avant tout de la foi. Récemment, c'était sur Saint-Pierre Chanel, de Pâques, hein, et puis de parler des sujets aussi, hein, sur la foi ou sur d'autres sujets qui intéressent les enfants. Hein, voilà.
Donc, c'était le but initial de cette émission?
Je pense que, en général, oui, c'est de...
Évangéliser,
voilà, je dirais, à partir de différentes façons, quoi. Mm-hmm. C'est pas simplement de lire la Bible ou de lire des bandes dessinées, mm-hmm. mais il y a ce côté d'essayer de diversifier aussi la façon, le contenu, hein, mm-hmm. hein, et c'est pas toujours facile de se renouveler, hein.
C'est ça, oui. Mm-hmm.
Donc voilà, ça fait partie aussi de... J'ai senti que c'était... Puisqu'on souhaitait que je fasse ça, et peu à peu, quand même, c'est devenu quelque chose qui semble utile.
Oui, et puis vous avez l'air d'y prendre plaisir.
Oui, c'est vrai.
Oui, avec les enfants aussi.
Bah oui, parce que
c'est heureux de les écouter.
Ah oui, oui, c'est ça. J'écoutais ce matin avant de partir, c'est le jeudi matin, hein, et je voyais qu'ils étaient, il y a un enthousiasme de répondre, et c'est vrai qu'il faut créer une ambiance où qui fait que on sent que les enfants ils sont heureux d'être là, de répondre aux questions, etc.
Et puis ils connaissent bien, hein, ils répondent bien.
Ah ben, l'équipe qui est actuellement, ça fait plusieurs années que certains sont, hein, même Crocker, hein, qui est depuis 4 ans. Donc du coup, ils ont appris plein de choses déjà.
Ah oui.
Oui, c'est vrai. D'accord. Oui, puis ils vont au caté, hein, et donc...
Ils ont une éducation religieuse.
Religieuse, avec leurs parents, avec la catéchèse. Et donc c'est vrai que ça... Il faut que ce soit des enfants qui soient intéressés puis qui connaissent un petit peu, hein, c'est vrai. Hein,
Je voudrais aussi que vous parliez de votre intimité avec le Seigneur.
Oui. Ben, l'intimité avec le Seigneur, elle est, j'ai envie de dire, 24 heures sur 24. Hein, ce qu'on appelle l'union à Dieu. Hein, quelques livres comme ça, qui vient de mon oncle prêtre, l'un de mes deux oncles, qui s'appelle « L'union à Dieu ». Hein, et donc c'est un livre spirituel, mais qui est très ancien, hein, et j'aime bien le relire. Donc pour moi, l'union à Dieu, comme pour tout chrétien, hein, c'est de sentir dans son cœur. Alors c'est bien sûr au moment de la prière, surtout de la prière personnelle, la prière de l'oraison que nous faisons tous les matins, ou ça peut être le soir aussi. Le soir, nous avons ce qu'on appelle la visite au Saint-Sacrement. Donc pendant un quart d'heure ou plus, chacun est là, et puis fait sa... l'adoration. Hein, on est devant le Saint-Sacrement, hein, dans notre petite chapelle. Et donc, c'est cette union à Dieu que nous essayons d'approfondir dans ces temps forts comme ça, des temps ordinaires, hein, des temps où on médite. Moi, je prends souvent la parole de Dieu encore, là, hein, ou bien d'autres livres de prière que j'ai, comme celui-là. Mmh. Et puis, après, ça nous aide, je pense, à vivre dans la vie quotidienne, eh bien... tout ce que l'on a reçu, et aussi de faire confiance au Seigneur, de vivre des valeurs comme la confiance par rapport à ce qu'il nous demande. Et cette confiance, parfois, entraîne à partir de ce que j'appelle des clins d'œil de Dieu, des clins d'œil du Saint-Esprit. Hein, tout d'un coup, on voit une démarche, on dit est-ce que ça va marcher? Et puis, quelquefois, encore récemment, là, j'ai eu plein de démarches pour faire mon voyage, là. Ça s'est passé beaucoup mieux que je ne craignais. Hein. Donc j'ai dit, Seigneur, ben, aide-moi. Et puis il se trouve, hein, que ça s'est mieux passé. Et je dis, merci Seigneur. Voilà, hein, oui. C'est ça que ça veut dire concrètement. Hein. En même temps, c'est pas magique. Hein, c'est pas...
Oui, en fait, c'est plutôt une vie dans sa présence.
Oui, c'est ça, une vie en sa présence, dans son cœur. Et c'est vrai que j'ai parfois utilisé, tout le monde peut l'utiliser, la prière de Jésus. Je sais pas si, qui consiste tout simplement à répéter Jésus, Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Hein, donc les églises orthodoxes qui ont beaucoup développé, les églises d'Orient, cette forme de prière répétitive, Seigneur. Et quand je suis dans la paix, puis que je conduis même, Seigneur Jésus, Aie pitié de moi, prends pitié de moi. C'est une phrase d'évangile, hein, Seigneur. Oui. Et donc, c'est aussi cette prière, ou d'autres prières, à Marie aussi. Hein, Saint, je vous salue, Marie. Quand je suis en voiture, il y a toujours le. J'allume et puis dans. J'ai mis une clé USB avec plein de chapelets et donc j'écoute, je prie comme ça. Hein, oui. Je laisse le Seigneur me parler à travers cette prière qui est répétitive apparemment. Mais ce chapelet, qui est le chapelet de Lourdes, a beaucoup d'explications au début de chaque dizaine et je trouve que c'est enrichissant. Mm-hmm. Hein, et donc voilà, c'est dans l'union à Dieu, c'est en permanence.
On revient dans une minute.
Oui.
Une pause musicale. Nous arrivons presque au terme de notre émission. C'est la dernière partie. je voudrais, comme je pose à tout le monde, la même question. Avez-vous un message pour les enfants de Dieu?
Quand vous dites les enfants de Dieu, c'est en général.
Oui,
hein, c'est ça,
vous
hein,
et moi, on est des enfants de Dieu.
Oui. Bon.
Mais vous pouvez parler, vous pouvez vous adresser aux enfants si vous préférez.
C'est ça. Fondamentalement, c'est la même chose. Hein, c'est avec les enfants, je commence par parler de Dieu. Dieu est notre papa du ciel. Hein, y a cette idée-là que Dieu, c'est le Père, hein, et qui nous a créés et qui nous aime et qui est relié à Jésus, qui est notre frère, qui est venu nous sauver. Hein, de rappeler la foi chrétienne, quoi. Mm-hmm. Et parce que Dieu, justement, il n'est pas un Dieu unique. C'est difficile à comprendre, il faut remarquer. Hein. Mais moi, je crois, je vis beaucoup en invoquant Dieu comme Père, mais aussi comme Jésus. Et pour moi, la phrase clé que depuis longtemps j'ai dans le cœur, c'est de Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mm. Et pour moi, c'est ça que je vis, que j'aime bien retrouver. Et puis aussi l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous inspire, c'est celui qui nous, il y a les dons du Saint-Esprit, oui. Voilà, c'est celui par qui ça passe, hein. Mais bon, peu importe si c'est Jésus, le Père ou Dieu, c'est chacun qui sent un peu plus comment invoquer. Dans l'Église, à la messe, on invoque le Dieu, Fils et Saint-Esprit et Jésus, hein. Et donc, c'est chacun qui, au début, c'est pas facile de comprendre, mais il y a trois dieux ou pas, oui, c'est, faut sentir comment, faire sa vie spirituelle, comme on l'a dit, la vie chrétienne, à partir de cette idée de Dieu. Et à ceux qui ne connaissent pas Dieu, je rappelle que Dieu, ben, c'est celui, en tout cas, le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu de créateur, c'est celui qui s'est révélé, voilà, qui s'est révélé à un moment donné. Toutes les religions, il y a eu plein de religions avant, hein, et les hommes ont eu conscience que qu'ils venaient de quelqu'un, hein, qui sont pas. Et il y a eu des dieux, il y a eu beaucoup de religions. Et puis nous, un jour, il y a eu cette religion chrétienne. Il y a eu d'abord le judaïsme. Hein, oui. Tout est parti de là. Et Jésus qui fait que notre Église, les églises chrétiennes, il y en a plus que les églises catholiques, hein, sont celles qui sont majoritaires, même s'il y a l'islam aussi, hein, mais qui est une religion différente malgré tout, hein, même s'il y a des points communs, bien sûr. Hein, il y a Abraham, ils ont quand même les mêmes ressources. Oui, hein. Oui. Et donc, c'est Dieu qui nous aime et à qui on peut faire confiance, à qui on peut demander, que l'on peut prier. Et c'est l'un des mots-clés pour moi. Hein, c'est vrai que après, c'est chacun qui fait cette découverte en priant. Hein, c'est le Dieu qui met dans notre cœur cette foi, parce qu'à un moment donné, il faut demander au Seigneur, aide-moi à faire grandir ma foi. Hein. Et donc l'espérance, la confiance. Hein. Et puis la troisième grande vertu, c'est d'appliquer ça, c'est la charité, c'est comment on essaye de vivre dans ce que le Seigneur nous demande, hein, dans notre mission, dans notre travail. Pour moi, c'est celle de frère, quoi, donc d'appliquer. Et de faire, c'est le mot clé aussi, c'est être témoin. Hein, c'est pas simplement des paroles, mais je crois que notre vie, notre attitude, notre comportement, avec les jeunes en particulier ou les enfants, est aussi importante que ce que l'on dit. Mmh. Hein, et avec les enseignants que je rencontre, je crois qu'on doit avoir une attitude justement qui est positive, qui les aide, qui cherche avant tout à leur rendre service, à les accompagner quand ils ont besoin. Hein. Oui. Voilà.
Avez-vous un message que vous voudriez donner aux auditeurs pour ces temps que nous vivons?
Je crois qu'on a évoqué beaucoup de choses, hein, mais c'est vrai que c'est toujours le mot confiance, confiance qui me revient, parce qu'on est dans un monde quand même qui est très... très, très, très dur à vivre aujourd'hui, hein, quand on voit cette guerre de Crimée, là, enfin, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et certains se disent quand même quelquefois, Seigneur, comment ça se fait que tu permettes ça?
Oui,
hein, c'est vrai, hein, il faut reconnaître que ce n'est pas évident. Hein, et quand on voit ce qui s'est passé dans les guerres et tout ça, hein, vraiment, on se dit, c'est pas évident de garder cette foi et cette confiance quand on se dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il fait, le Dieu, hein? Et parfois, il intervient, bien sûr, mais en même temps, ce Dieu-là, il laisse libre, il a créé l'homme, et c'est pas des marionnettes. Mm-hmm. Hein? Et donc, il laisse faire, il a laissé Hitler, il laisse Poutine actuellement, il ne lui apparaît pas, on pourrait dire, mais il devrait faire ça. Voilà, ben non, depuis 2000 ans, toujours, le Dieu auquel on croit, le Dieu chrétien, le Dieu des musulmans aussi, c'est un Dieu qui est là, qui invite à vivre des valeurs et en même temps qui n'empêche pas l'homme qui veut à tout prix faire ce qu'il veut et faire des choses qui sont malheureuses. Hein.
Donc, quelle attitude vous pouvez donner un peu quelques repères pour aider les personnes? Parce qu'on dit bon, faire confiance, mais c'est pas évident de faire confiance à Dieu si on n'a pas une longue pratique.
C'est vrai. Et donc personne ne veut dire qu'on est arrivé vraiment. Hein, mais je crois qu'il faut, j'ai envie de dire, il faut d'abord vivre dans notre vie quotidienne des valeurs positives, des valeurs humaines, qui sont finalement les valeurs chrétiennes, même si on n'est pas forcément chrétien d'une façon parfaite. Et je crois que le monde... on voit qu'il y a du positif aussi dans le monde. Hein. Il y a une espèce de mélange de choses très belles, de solidarité en particulier. Pour moi, c'est un mot important, hein. Même en particulier avec les pauvres. Hein. Pour moi, tout de suite, dans ma tête, c'est Mère Teresa qui vient à l'esprit. Hein. Comment des gens comme elle ont pu donner leur vie d'une façon aussi incroyable, hein, et donner l'exemple que les chrétiens peuvent aider les gens. Et donc, c'est dans le quotidien... En vivant les choses positives, en essayant de vivre ce que tout simplement tout être humain, hein, les valeurs, j'ai envie de dire, de citoyen, hein, qui soient positives, par exemple à travers le respect, c'est le mot respect aussi de l'autre, le respect de la nature, le respect de ce que on attend de nous, hein, Et ça, c'est pour aussi tous ceux qui sont responsables de ceci ou de cela. Il n'y a qu'à lire le journal. Hein, on voit un petit peu comment est vécu le nombre de gens devant les tribunaux qui ont été méchants, qui ont fait des bêtises. Enfin, c'est sûr que c'est pas facile à garder notre confiance, garder notre... à dire à Dieu, ben, c'est Seigneur, aide-nous, aide le monde. C'est vrai que ça reste quand même une chose qui doit nous tenir à cœur, hein, dans notre prière et dans notre attitude de tous les jours, hein, d'essayer de vivre ces valeurs-là.
Ok. Donc, on arrive pratiquement à la fin de notre émission.
Oui.
Un dernier message pour qui vous voulez. À qui aimeriez-vous donner un message?
Eh bien, à tous ceux qui nous écoutent et puis oui. À ceux que je rencontre par ma mission, aussi à ma communauté. Hein, j'ai envie de leur dire les choses. On n'est plus très nombreux, les frères. Oui. Et on n'est plus très nombreux catéchistes aussi. J'ai envie de m'adresser aux catéchistes avec qui... j'ai occasion de temps en temps, hein, de rencontrer et bien de garder confiance et de continuer. Le Seigneur nous appelle, hein, quelle que soit notre situation,
hein, persévérer.
Hein. Et la persévérance passe aussi par des temps de prière, hein, donc de temps d'union à Dieu. On a parlé tout à l'heure, hein, et le Seigneur, il est avec nous toujours. Hein, ça fait 2000 ans que ça dure. On a vu tellement de grands personnages, des saints et des saintes qui ont vécu comme Mère Teresa, comme d'autres, la foi chrétienne d'une façon pratique, d'une façon très à travers la charité. C'était les sœurs de la charité. Mm-hmm. Donc voilà, je crois que je dirais à tout le monde de vivre tout cela et de faire confiance et puis de s'entraider aussi, hein, dans les familles.
Faire du bien à l'autre.
Faire du bien, oui. Bien sûr, hein, être toujours positif.
Bienveillant, oui.
Tout à fait. Hein. Bon, c'est des choses de base, hein, c'est des choses... Mais quand je vois ce qui se passe dans l'actualité, dans les familles, je me dis quand même que c'est triste qu'on en arrive parfois à des situations, hein, qui les amènent devant les tribunaux, tout ça.
Oui. Et,
hein, on est loin du compte parfois. Hein,
oui, on aspire de plus en plus à la paix. Surtout qu'un jour, j'entendais un jeune... dire, mais vous ne vous rendez pas compte que les familles aujourd'hui sont des terrains, ce sont des lieux de combat, des matchs de combat qui se jouent tous les jours.
Ouais, c'est terrible. Ah ouais, oui. Ça me choque beaucoup. Hein.
Oui.
Et c'est partout. Hein, mais ici, peut-être qu'on le ressent un petit peu plus, je ne sais pas. Mais c'est vraiment... il y a des familles, des enfants derrière, et c'est vraiment quand je vois ça, là, je me dis, Seigneur, aie pitié de nous.
Oui, aie pitié de nous, et j'aimerais juste dire un mot aussi. Pour une fois, je vais dire un mot aux auditeurs, que la paix, c'est Christ.
Oui.
C'est pas autre chose, c'est Christ, donc il faut absolument... donner toute sa place à Christ dans nos vies, dans nos familles, sur nos lieux de travail, partout, pour vivre cette paix. À vous.
Et cette joie.
Cette joie aussi.
La joie fait partie de... si on n'a pas la joie, il y a quelque chose, peut-être qu'on a du mal à intégrer dans notre vie, mais c'est vrai que pour moi c'est un signe un petit peu qu'on est...
Oui, parce que quand on a Jésus, on a cette joie.
On a la joie.
Même si on a tous les problèmes du monde, on l'a.
Bien sûr, voilà, sûrement.
Voilà, ben, un dernier mot.
Ben, c'est ce mot-là, le mot de la joie, de vivre quand on est uni au Seigneur, quand on essaye de lui être fidèle dans notre vie de tous les jours. Et donc, je nous souhaite à tous, hein, de vivre... notre vie chrétienne, quelle que soit la forme, hein, pour pouvoir faire avancer les choses dans notre société, dans nos familles, dans nos communautés. Oui. Voilà, amen, alléluia.
Amen, merci frère Gilles, merci aux auditeurs. À la prochaine.
À la prochaine peut-être.
Merci d'avoir écouté votre émission « Racontez-moi Dieu dans votre vie » avec notre sœur Aïcha et son invité, frère Gilles Le Goff.